rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. En attendant la nouvelle année, je vous propose, comme un calendrier de l'avant et de l'après, 5 lectures avec 4 autrices et un auteur, des lectures que je vous recommande d'offrir, de partager, de lire évidemment, des lectures qui m'ont permis de mieux comprendre le monde. Lecture rencontre avec Un monde sans rivage d'Hélène Gaudy. Voici la lecture de la quatrième de couverture. À l'été 1930, au Svalbard, une exceptionnelle fonte des glaces dévoile des corps et les restes d'un campement de fortune. Ainsi se résout un mystère. En 1897, Salomon Auguste André, Knut Frenkel et Nils Strindberg s'élevaient dans les airs, déterminés à atteindre le pôle Nord en ballon. Et disparaissaient. Parmi les vestiges, on exhume des rouleaux de pellicule abîmés qui vont miraculeusement livrer des images. À partir de ces photographies, Hélène Gaudy imagine l'envol et l'errance de ces trois hommes, seuls sur la banquise, très moyennement préparés, ballottés dans un paysage mobile, tenaillés jusqu'à l'absurde par la joie de la découverte et l'ambition de la postérité. D'une richesse et d'une poésie inépuisables, Un monde sans rivage se fait le témoin de ce voyage opiniâtre jusqu'à l'effacement et de l'insatiable curiosité humaine qui pousse à parcourir, décrire, circonscrire et finalement rétrécir le monde. Lecture d'un extrait d'Un monde sans rivage d'Hélène Gaudy. Dans cet extrait, nous sommes du point de vue d'Anna, la fiancée de Nils Strindberg, le photographe. Je ne peux pas te suivre. À la fin de cette phrase qu'Anna a écrite sur un morceau de papier collé sur un cahier qui accompagnera Nils dans son expédition, un point bien rond, bien dessiné. Au-dessus, un dessin qu'elle a soigneusement tracé à l'encre noire, un ballon qui ressemble à un gros bonbon, un drapeau de chaque côté de la nacelle et, sur le sol, une petite silhouette à chignon qui agite la main. Il y a le ballon, les hommes qu'on devine dedans, il y a la nation, les drapeaux, le pays, il y a elle, assignée à la terre, tout est dit. Je ne peux pas te suivre. Quand lui a-t-elle donné ce dessin ? Tantôt la verdure, le jardin. Ils sont là, au soleil, qui d'abord éclaire trop fort leur visage pour qu'on puisse distinguer leurs traits. On est en avril ou en mai. Il y a des taches lumineuses sur la table en fer et le bas de la robe d'Anna, des taches rouges sur la naissance de sa poitrine. Il fait chaud, elle transpire, quelque chose l'enserre comme lui dans son costume. Il faut forcer pour trouver une déchirure, régler la lumière, attendre que l'image se révèle. Voilà, elle est allongée, c'est une photographie, encore, retrouvée en lambeaux dans les vestiges du campement, au centre de laquelle Anna repose, souriante, dans l'herbe, bras croisés derrière la tête, manches bouffantes, regard espiègle, jupe sombre. Est-ce qu'elle est noire ? Quelque chose manque sur cette image. Peut-être cette vibration qui précède l'élan signale la présence. Ils sont partis il y a trop longtemps pour que le lien, celui qui passe de main en main, de celle des parents à celle des enfants par le fil lent des gestes et des photos de famille, soit encore possible à saisir. Pour la réveiller, il faut la frotter à autre chose. Faire venir la couleur ou la trace du mouvement. Et pour cela, on peut regarder, par exemple, Le jour d'après, peint en 1895 par Edward Munch, où l'on voit une jeune fille couchée sur un flanc, chevelure répandue sur l'oreiller, corsage largement ouvert sur la poitrine sans qu'elle dégage pourtant la moindre lascivité, plutôt une forme particulière de solitude. Il y a des bouteilles d'alcool posées sur la table, sa jupe est brune, piquetée de points sombres qui ont peut-être été des fleurs. Son bras très pâle est tendu dans le vide vers le bord du tableau. L'intérieur du poignet est au fer, sa tête semble pencher en arrière, comme si son sommeil était une chute, un renoncement. Elle est puissante pourtant, une madone aux yeux bleus détruite mais paisible, qui colore autrement la joie féroce d'Anna, son sourire éclatant. Peut-être qu'il faut ça, la matière de la peinture, le souvenir d'une vie qui échappe encore à la photographie pour redonner de la chair à Anna, à Nils, qui soudain se penche. Lui aussi a de la peau à empoigner sous sa chemise à midonnée, serrée par le nœud papillon des images d'avant le départ. Lui qui toujours regarde droit vers l'objectif, alors que ses compagnons, fixant un point de fuite invisible, jouent déjà les conquérants. Soudain, le corps de Nils ploie sous la lumière déclinante. Ses épaules sont rondes et souples sous la chemise. Il a dans le regard quelque chose de cristallin et d'humide, et sur la peau l'odeur de ceux qui rougissent facilement. Un relent de jeunesse plus sucré vers la nuque où Anna pose sa joue, et puis sa main à plat contre son dos large. Elle prend son visage dans ses mains, c'est sûr. Il est incapable de mentir, alors quoi? Quelle version acceptable s'invente-t-il ensemble? Peut-être n'y a-t-il ni tache de soleil ni table en fer posée dans l'herbe, juste de hautes fenêtres, une petite pièce, un lit blanc, où la main de Nils à présent se promène sur la chair pâle de l'intérieur du poignet d'Anna. Elle serait allongée, alors comme la jeune femme de Munch. Sans plus de pause ni de raideur, un ravage liant le creux de son ventre au nœud dans sa poitrine. Un ravage. Nils encore se penche et s'abat dans sa gorge, dans ses reins, contre leurs tempes jointes et leurs oreilles bourdonnent. Ils sont sourds et aveugles. La pulsation entr'ouvre leurs lèvres et ils se lèvent ensemble. Et elle le presse plus fort contre son corps. Elle enfouit son visage dans un corps tendu. Ses mains descendent vers le bas de son dos, là où la chair se bombe, le sentant tout entier renoncer à une chose pour en accepter une autre, sans réserve, jusqu'à ce qu'il laisse échapper un soupir à peine audible, rien que pour elle, et elle le serre encore et la pression insère leur ventre l'un dans l'autre, dur, battant, indissociable, et le lâcher est une souffrance, sans cesse remise au lendemain. Au début, elle s'est étonnée du pouvoir qu'elle avait sur ce garçon si grand et si sérieux, qui dès l'instant où il se trouvait face à face perdait toute contenance. Au début, c'était presque un jeu. Il suffisait qu'elle s'approche, un demi-pas à peine après avoir vérifié qu'il n'y aurait pas de témoin à leur trébuchement commun dans un monde plus trouble, plus silencieux, plus dense. Il suffisait que ses seins touchent sa poitrine et s'y pressent doucement pour que ses yeux se perdent quelque part en un lieu qui n'avait rien à voir avec les calculs, les plans de vol, les politesses, ni aucune autre de ses préoccupations quotidiennes. Et ça la faisait rire à l'intérieur, un rire silencieux et complice qu'elle gardait tout au fond d'elle-même sans s'écarter de lui, pour autant. Sans esquisser le moindre pas en arrière, et il suffisait qu'elle saisisse entre ses dents blanches sa lèvre pleine, charnue, et qu'elle la morde à peine pour que ses yeux se ferment presque douloureusement, et qu'il s'approche encore, devenu aussi tiède et souple que son sexe était dur contre son ventre, sans plus contrôler ni ses mains ni l'expression de son visage. Il y a quelque chose qui la bouleverse dans la faiblesse soudaine de ce corps pourtant solide, en apparence, ce corps que plus rien d'autre ne tient que le désir d'elle, et ce qui flanche en lui, quand à son tour il la serre, elle n'y peut rien, ça la renverse davantage que pour ce qu'elle a connu de charme et d'attrait chez les autres. Cet aveu d'abandon, ce corps démuni, affamé, ce regard perdu comme étonné toujours de la découvrir telle qu'elle est exactement, ce visage qu'elle prend entre ses mains encore, et qu'elle caresse, dont elle ne délaisse aucun creux, aucun relief, épousant de ses doigts, de ses lèvres, la moindre déclivité légère, elle n'a plus envie de rire maintenant, plus du tout. Ils partagent la même gravité trouble, uniquement attentifs à ce qui se rompt à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils portent au cou une petite chaîne à laquelle sont accrochées trois breloques, une croix, une ancre, un cœur. La lumière accroche le métal et les cheveux d'Anna, que les photos ne montrent jamais dénoués, mais qu'on devine épais, rétifs au peigne. Sa poitrine se creuse brusquement et il la serre plus fort. Sa langue à lui dans sa bouche à elle, qu'est-ce que ça fait? A-t-elle eu le temps de le savoir? Sa peau qui frémit quand elle se couche, quand elle rêve de sa main qui tremble en glissant le long de son ventre. Elle est seule. Ça y est, les rôles sont distribués. Je ne peux pas te suivre. Que trouve-t-il à lui dire? Des mots de consolation, une tendre confirmation de la place à laquelle chacune, chacun accepte de se tenir, ou peut-être une promesse, même vaine, si peu crédible, un jour peut-être, ensemble, dans le grand Nord. Peut-être fait-elle semblant d'y croire. Elle ne sait pas comment se nomme ce lieu où elle ne peut le suivre. Sans doute croit-elle encore qu'il s'agit de la banquise, de l'aventure, à moins qu'elle n'ait déjà au fond d'elle-même, tout au fond, où se fabriquent les larmes, une idée de ce à quoi il ressemble. Ce qu'elle sait, ce qu'on lui a appris dès l'enfance, c'est que la décision ne lui appartient pas, qu'il est possible de lier sa vie à celle d'un homme sans avoir un seul mot à dire s'il décide de s'envoler vers le grand Nord en la laissant à terre et qu'on l'estime déjà chanceuse d'avoir pu le choisir, lui, avec en lot de consolation ce désir rarement livré avec les commodes arrangements du mariage. Est-ce que c'est déjà le début d'une colère, ou est-ce qu'on pourrait croire, encore, à une fierté? À quoi ressemblera, pour elle, le jour d'après? Celui où on se lève seul, sans plus aucune croix dans le calendrier, aucune issue à l'attente, l'étendue sans bord du premier jour sans lui. Nil ceci pourrait prononcer les mots qu'elle a soigneusement écrits, tirer le trait noir à la règle entre le ciel et la terre. Lui non plus ne pourra la suivre dans les heures infinies qui déjà s'amoncellent, dans les gestes vides de leur sens qu'elle s'apprête à accomplir, dans les lieux familiers où il ne se tiendra plus, sur la chaise où les taches de soleil maintenant disparaissent, cette chaise qui, sans doute, n'a jamais existé. C'est le soir, il se lève, le dessin est minuscule dans sa main refermée. Pour elle, le jour d'après a déjà commencé. C'était ma rencontre avec Un monde sans rivage, le magnifique livre d'Hélène Gauthier que je vous recommande de lire, d'offrir, de partager.